est très discontinu. Ça fait rien. On retrouve toujours les quelques problèmes essentiels. Et le problème, je crois, aujourd'hui, très important, c'est de découvrir ces types différents d'abstraction. Comprendre que notre intelligence est liée de fait existentiellement, puisque mon âme est forme de mon corps. Bon, si mon âme spirituelle, et mon âme spirituelle, elle s'exprime par l'intelligence. C'est l'intelligence qui développe mon âme spirituelle. Et mon intelligence n'est pas mon âme. Il y a quelques textes de saint Thomas où la distinction entre l'âme et l'intelligence n'est pas affirmée avec autant de force. Mais quand on voit la théorie générale de saint Thomas, l'âme, l'intelligence ne peut pas être substantielle chez un être créé. Ça, c'est très important quand même. Parce que l'idéalisme voudrait toujours un peu que l'intelligence soit notre substance. Et on vit alors sur un terrain qui est virtuel et qui n'est pas réel, qui est abstrait. Mon intelligence est un accident, et pas ma substance. Et cela fait partie de ces distinctions capitales qu'on fait dès qu'on atteint l'existence de Dieu, dans un jugement de sagesse. Et dans un jugement de sagesse, il y a ce jugement très important que l'être créé ne peut pas être substantiellement intelligence. Et que l'être créé fait que nécessairement mon intelligence est un accident de mon âme. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Il y a, par mon intelligence, objectivement, l'intelligence peut saisir les principes au sens fort, c'est-à-dire la substance, c'est-à-dire l'acte. Finalité, et saisir l'efficience et la matière. L'intelligence peut se développer métaphysiquement. Et le développement de l'intelligence au point de vue métaphysique est un développement qui se fait au-delà de la quantité, au-delà de la matière. Mon intelligence n'est pas faite pour le monde matériel. Et ça, c'est une affirmation au point de vue sagesse qui est très importante. Mon intelligence ne peut jamais être satisfaite en connaissant le monde matériel. Et mon intelligence domine toujours le monde matériel. Donc, voyez, il y a cette insatisfaction, puisque l'intelligence ne peut pas être satisfaite par la connaissance du monde matériel, elle ne peut pas être satisfaite. Donc, quand on n'est pas satisfait, on a soif. On sait ce que c'est quand il fait chaud. Notre gorge est un désir lumineux, un peu d'eau. Alors, faites en analogie de similitude pour l'intelligence. L'intelligence reste insatisfaite dans la connaissance du monde matériel. Mon intelligence ne peut être satisfaite que par la métaphysique. Ça, il faut le comprendre. Donc, devenir normal. Vous savez bien que quelqu'un d'insatisfait est toujours de mauvaise humeur. Il y a un petit peu de connaissance de vous, quoi. De vous-même. Quand on est insatisfait, on est un désir, mais un désir tel que qu'on a soif, on n'arrive pas. Alors, c'est très important. Parce que l'intelligence du monde aujourd'hui, comment se développe-t-elle? Par les mathématiques. Par les mathématiques, et dans les mathématiques, je ne rencontre jamais de principe au niveau de l'être. Je ne rencontre que la relation. Et la relation, le vieux philosophe Aristote disait, c'est le plus petit des êtres. Le plus petit des êtres. Puisque relation de raison et relation réelle s'unissent dans la relation. Donc, ce qu'il y a de si extraordinaire dans le monde de la relation, c'est que je ne sais pas si je suis dans un monde réel ou dans un monde virtuel. Je ne sais pas. La relation comme telle elle existe dans le monde virtuel, dans le monde que l'intelligence est capable de faire, et elle existe dans le monde réel. L'intelligence n'est jamais satisfaite par la relation. Donc, en cultivant les mathématiques comme on le fait actuellement, on conduit l'univers à être assoiffé. C'est-à-dire, on est très assoiffé, on est de mauvaise humeur, on n'est pas satisfait, on n'a pas de repos. Donc, c'est un monde qui n'a pas de repos et insatisfait, qui va aller toujours plus vite. On se perd dans ce que la relation peut nous donner, puisque la relation ne peut pas nous donner la substance. La relation ne peut pas nous donner l'existence de Dieu. La relation, c'est l'homme. Je crois que c'est très important de comprendre cela. En critique, c'est très important de comprendre cela. De comprendre que, de fait, la métaphysique ne s'enseigne plus, parce qu'il ne faut pas croire qu'en faisant une année de métaphysique, on a compris. Dans le monde d'aujourd'hui, On le sait bien, vous le savez bien. Il faut plusieurs années. Et ces plusieurs années doivent continuer. La métaphysique, si on ne continue pas d'entretenir une intelligence au niveau métaphysique, on vit dans un monde de la relation. Et donc, on se laisse aller dans la relation. Et la relation ne rejoindra jamais la substance. Oui. Ce qui fait que on éveille une intelligence d'une façon remarquable par les mathématiques. On l'éveille, elle a soif, et on ne lui donne que la relation. Seule la métaphysique atteint la substance, c'est-à-dire atteint un principe d'être. Alors, comme on n'atteint pas le principe d'être, on se rattrape pour trouver un principe de vie. Alors, le principe de vie, c'est de trouver ce que je connais. Les mathématiques engendrent nécessairement une philosophie de repliement de l'intelligence. Ce que je saisis, ce que je connais, elle ne conduit pas à l'être. Les mathématiques même empêchent de saisir l'être, puisque l'être mathématique, c'est la relation. Et on ne saisit pas et on ne veut pas saisir l'être réel, qui est substantiel. Je crois que ça, au point de vue critique, nous pouvons assez facilement le comprendre. C'est tragique, hein ? C'est évident que c'est tragique. Parce que, alors, si on allait plus loin, alors regardez la chose au point de vue chrétien, c'est tragique. Une intelligence faite uniquement pour la relation, ne peut pas être capable de recevoir la foi. Alors ça, c'est de la théologie, évidemment, et c'est un problème qu'on doit se poser. Parce que la foi atteint le premier dans l'ordre de l'être, Dieu. Dieu n'est pas le premier dans l'ordre de la relation. Et je ne peux jamais atteindre Dieu par la relation. Donc, et cela fait partie de l'insatisfaction critique des mathématiques. Insatisfaction pour l'intelligence humaine. Les mathématiques éveillent mon intelligence. Aristote avait vu ça d'une façon très étonnante en voyant que les mathématiques étaient ce qu'il y avait de plus connaturel à mon intelligence humaine. Et c'est dans les mathématiques que l'intelligence humaine peut briller le plus, peut le plus se manifester, se montrer, parce que elle identifie l'être et le divisible, la relation. C'est, je crois, très important à saisir ça. évident, c'est très grave de voir qu'on éveille l'intelligence, on l'éveille très profondément. Un mathématicien a une intelligence très développée, mais une intelligence humaine, pas l'intelligence comme intelligence, mais l'intelligence humaine. Elle est très développée, elle est super développée. Et elle donne, par le fait même, une autorité. Mais l'intelligence comme telle demeure liée à la quantité. L'abstraction mathématique demeure toujours liée au divisible. C'est l'être du divisible, c'est l'être dans le divisible, c'est l'être par le divisible, et donc l'être toujours lié à la quantité. Je ne peux pas en sortir. Et Husserl, à ce point de vue-là, est très intéressant. Même, c'est aussi très intéressant de voir comment on peut sortir de Husserl. Mais uniquement le mouvement de Husserl est très intéressant, puisque Husserl est un matheux au point de départ. Il a passé son doctorat de mathématiques. Il a fait son doctorat de mathématiques. Puis, il a voulu continuer le point de vue mathématique pour voir une méta-mathématique, pas métaphysique, mais méta-mathématique. Et puis, il a voulu, en dernier lieu, voir si, avec cette méta-mathématique, on pouvait aboutir à l'absolu. Et l'absolu, pour lui, c'est la valeur. Les derniers écrits de Husserl sont conservés à Louvain, à l'université de Louvain. Et ils ont été édités, du reste, dans la petite rue de Louvain. Et ces derniers écrits, c'est sur la valeur. Dieu est la valeur suprême. Mais voyez, la valeur, c'est encore la relation. La valeur, c'est toujours par rapport à moi, par rapport à l'homme. La valeur n'existe que parce que l'homme est là. Vous pouvez, en fonction de l'homme, montrer la valeur des choses. Et c'est en fonction de l'homme. C'est pas en soi la valeur. Donc, c'est toujours relatif à l'homme. Vous ne quittez pas l'homme et vous définissez le premier, la valeur suprême. Quand Hegel veut définir Dieu, c'est toujours par rapport à lui. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. Si la valeur est Dieu, je suis Dieu, puisque la valeur est humaine. Elle ne peut pas quitter l'homme. Et ça, c'est très intéressant de voir que Husserl aboutit à ça. Et on comprend comment la foi peut alors, elle, dans son exigence propre de foi, montrer que Husserl ne suffit plus, qu'il y a autre chose. C'est par la foi qui est donnée par l'Esprit Saint, indépendamment des mathématiques, n'est pas les mathématiques qui me donnent la foi. C'est l'Esprit Saint. Et Dieu, il est. Je suis. Bon. En dehors des mathématiques, il faut toujours respecter et regarder comme la valeur humaine suprême. Dans les valeurs humaines, les mathématiques sont suprêmes. Et ont une certitude, une évidence, plus que toutes les sciences. Les mathématiques commandent tout le développement des sciences. Donc les reines, à ce point de vue-là, de façon très très forte. Vous savez bien, ceux qui font et qui veulent faire médecine disent « je ne fais pas des mathématiques » et ils sont obligés d'en faire. Un peu, hein. Pas beaucoup, mais un peu. Il y a toute une partie de leur étude qui ne peut se comprendre que par le point de vue mathématique. Parce que les sciences n'ont plus de sagesse. Et c'est les mathématiques qui remplacent la sagesse. Les mathématiques, aujourd'hui, remplacent la sagesse, au point de vue humain. La sagesse, elle s'enseigne plus beaucoup. Hein, parce que la sagesse, il faut passer par la métaphysique. Donc, il faut saluer les mathématiques comme étant le développement le plus humain. Et j'affirme le plus humain, c'est-à-dire le mode humain demeure toujours dans les mathématiques. Un mode humain très spirituel, mais toujours lié à l'imaginaire. Les mathématiques restent fixées à l'imaginaire, un imaginaire spirituel. Ou un spirituel imaginaire. Vous pouvez le décliner des deux côtés. L'imaginaire peut être romantique. Là, vous savez très bien ce qu'il est. Quand vous avez des rêves, quand vous avez des cauchemars, c'est votre imaginaire avec le tragique qui est en vous ou le concupiscible qui est en vous. Alors, vous avez des rêves tragiques ou des rêves concupiscibles. C'est normal, l'imaginaire fait le lien de tout ça. L'imaginaire peut tomber dans les pires perversions imaginaires du concupiscible et peut tomber dans les pires imaginations. Alors, de l'imaginaire, il veut dominer par le point de vue irascible. C'est l'imaginaire amplifie le concupiscible, amplifie l'irascible. C'est très extraordinaire, ça. Et les mathématiques sont entre les deux. C'est au-delà du concupiscible, c'est au-delà de l'irascible. En étant un imaginaire rationnel. Un imaginaire rationnel, c'est les mathématiques. Vous voyez, l'imagination acquiert une noblesse très étonnante en mathématiques qu'elle n'a pas du côté l'imaginaire lié au concupiscible. Parce que l'imaginaire lié au concupiscible, ça descend très bas. L'imaginaire lié à l'irascible, ça monte très haut. Et l'imaginaire intelligible règne. Là, il règne. Vous avez trois développements de l'imaginaire. C'est très important de comprendre ça au point de vue critique. Il y avait trois développements d'imaginaire. Y a-t-il autre chose? Oui. L'homme peut arriver à saisir que s'il est supérieur à tous les animaux, cependant, il est soumis à la réalité. Il est capable de saisir la réalité au niveau de ce qui est. Je peux être roi de l'imaginaire, je ne peux pas être roi de l'être. Et le passage de l'imaginaire et du réel. Et ceci se manifeste dans ma vie par le jugement d'existence. Ceci est. Qui est capital. Aristote l'a touché, mais l'a touché que dans un seul endroit. C'est comme ça, les choses très importantes, on les touche. Et du temps d'Aristote, on comprend très bien qu'il n'a pas développé plus. Mais il l'a développé en face de Platon. Le jugement d'existence n'existe pas dans le platonisme. Alors, il faut s'engouffrer dans Platon. En sortant, en voyant que le jugement d'existence n'est pas chez lui, qu'il cherche le bien en soi, qu'il cherche l'un en soi, qui n'existe pas, qui n'existe que dans mon intelligence liée à l'imaginaire, et qui n'existe que dans mon intelligence liée au réel. Alors, j'ai une autre piste de connaissance, ma connaissance par ce qui est. Ce qui est, je le saisis instinctivement, par l'abstraction universelle, où je passe de l'individu à l'universel. Je crois que l'universel, tout être normal, alors vous l'êtes, tout être normal saisit l'universel. Oui. Efforcez-vous au moins une fois dans votre vie de savoir qu'est-ce que c'est que l'universel. La découverte de l'universel est quand même quelque chose de fabuleux. Parce que grâce à l'universel, il y a eu la parole. Vous pouvez distinguer entre homme et papa. Première distinction que nous avons tous fait. Mais je ne sais pas à quel moment. Et cette distinction entre ce qui est, alors vous voyez, s'il n'y a pas de jugement d'existence, si on n'a fait aucune attention au jugement d'existence, ceci est. Alors, qu'est-ce que c'est que l'universel dans ce cas-là? Si je n'ai jamais fait attention à ce point de vue du jugement d'existence, où je dis ceci est. Ceci est. n'y a que des individus qui existent. Vous n'avez jamais vu un tout exister, une communauté exister indépendamment de ses individus. Elle existe grâce aux individus. Elle n'existe pas par elle-même. Ah, tiens, un petit raisonnement. Donc l'universel n'existe que par l'individu. Et vous êtes passé de l'individu à l'universel en oubliant l'individu. Voilà ce que la plupart des hommes ont fait. Ils sont passés du jugement très simple, faire la cuisine, manger. Je ne mange pas la carotte en soi. Je ne mange pas la pomme de terre en soi. Je mange des réalités. Donc, je distingue individu et personne. Mais au fond, très vite, l'individu, on le laisse tomber. Et on n'a plus que l'universel. Et c'est l'universel qui nous intéresse. Parce que nous communiquons aux autres toujours par l'universel. L'individu, nos connaissances individuelles sont limitées et les connaissances individuelles de notre voisin sont limitées. Comment pouvez-vous communiquer ? Vous communiquez sur l'universel. Et comme on n'a pas le souci de se poser tout le temps, mais l'universel, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu as rencontré l'universel dans ta vie ? Jamais rencontrer l'universel. Si ce n'est dans ma pensée. Ah oui. Et toi aussi, âme, très bien. Donc, nous nous sommes rencontrés dans notre pensée universelle. Et c'est vrai, l'individu, c'est toi, l'individu, c'est moi. Et si nous ne regardons que notre individualité, on s'oppose. On se durcit. On devient un silex en face de notre silex. Tandis que si tu atteins l'universel, à moi aussi. Donc, ah, très bien, nous communions ensemble. Vous voyez, c'est très important de voir que de l'individu est né l'universel. Et très vite, l'universel a pris le pas sur l'individu. Parce que l'individu, c'est trop individuel. L'individu, ça m'oppose aux autres, tandis que l'universel m'unit. Et très vite, l'universel, c'est devenu le lieu commun, on s'est réunis. Et donc, on a cultivé l'universel plutôt que l'individu. Et on a tout basé sur l'universel. Parce que notre langage, la plupart du temps, remplace nos expériences. Dans le monde d'aujourd'hui, on se cultive par l'universel. On se cultive en suivant des cours. On se cultive, de cette manière, notre expérience personnelle est très faible. Elle est tout de suite dépassée puisqu'elle ne se communique pas. Vous ne pouvez pas communiquer à l'autre l'expérience que vous avez de votre voisin. Il existe. Hein. Et vous savez qu'il existe. Et il est d'une humeur massacrante. Il existe. Vous ne pouvez pas communiquer l'expérience que vous avez de l'expérience de votre individu, de l'individu. Mais vous pouvez communiquer la connaissance que vous avez de l'universel. C'est pour ça que très vite, l'universel remplace l'individu et devient la base fondamentale. Dans le monde d'aujourd'hui, parce que grâce à l'universel, la science peut exister. Tandis que par l'individu, la science n'existe pas. Vous décrivez un individu. C'est très bien pour l'artiste, mais pas le scientifique. Le scientifique, il le faut l'universel. Et l'universel, dans toutes ses dimensions, alors vous cultivez l'universel dans toutes ses dimensions, mais vous oubliez que l'universel est le fruit d'une abstraction. Vous l'oubliez. Et vous croyez que l'universel, ben oui, c'est la réalité première. Or, ce n'est pas la réalité première. Vous avez toujours connu quelque chose avant l'universel. C'était l'individu. Et l'individu seul existe. L'universel, il n'existe que dans ma pensée. Et vous voyez, si vous commencez à connaître à partir de l'universel, l'individu et l'existence de l'individu vous échappent. Et vous avez uniquement un monde de signification. Et c'est la signification qui est la chose principale. Elle remplace le jugement d'existence. La signification devient grand moyen de communication. Et toute ma science s'élabore autour de la signification. Et j'arrive en disant très bien cette abstraction universelle. Mais il y a un autre type d'abstraction. Il y a l'abstraction mathématiques, nous avons vu ça, on s'enferme dans l'être mathématique et la relation. Et il y a l'abstraction métaphysique. Se sépare de l'existence, elle ne m'intéresse plus de la même manière. Parce que se séparant de l'existence, cette réalité n'a plus que la signification. Elle n'existe plus. Je veux au contraire saisir le réel dans son existence. Et c'est là où je m'oriente vers un nouveau type d'abstraction qui aujourd'hui est complètement oublié. Parce que le premier, l'abstraction mathématique, évident. L'abstraction universelle, elle est naturelle. Et je ne m'occupe que de l'universel. L'abstraction métaphysique, ah, je veux saisir l'être. Ce qui est, c'est son intelligibilité et c'est son existence. Je veux saisir ce qui est pour lui-même. Et donc, je vois l'universel s'oppose à l'être qui est. Qui existe pour soi. universel, tu vois, la connaissance métaphysique de ce qui est en tant qu'il est dans son être, n'est plus une abstraction, c'est une séparation. Je saisis dans la réalité ce qu'elle est en tant qu'être, non pas en tant que chien, animal, végétal, matériel, en tant qu'être. Et je saisis alors à ce moment-là l'être en mouvement, en devenir, et l'être qui est au-delà du devenir. Première distinction. Ce n'est plus la distinction entre individu et universel. C'est la distinction entre ce qui est comme être et ce qui est dans le devenir. Tout ce que j'expérimente est toujours un être en devenir. Et cependant, ce que j'expérimente existe. Vous voyez que le type d'abstraction est tout à fait différent. Puisque d'un côté, l'abstraction universelle, je quitte l'individu pour saisir sa signification. Et saisissant la signification indépendamment de l'individu, je peux, à partir de là, connaître cette réalité dans sa signification universelle. Tandis que dans cette abstraction philosophique, métaphysique, je veux saisir ce qu'est une réalité dans son être. Dans son être singulier, puisque la seule expérience que j'ai de l'être, c'est de l'être singulier. Toutes les réalités que je saisis existent d'une façon singulière. Donc si je veux saisir son être, je saisis cet être singulier et je sépare cet être singulier des différents modes dans lesquels il existe. Il existe d'une façon universelle, il existe d'une façon singulière. Je vois tout de suite ces deux manières totalement différentes pour l'être d'exister. Il existe d'une manière singulière, selon son sens. Il existe d'une façon individuelle dans son existence. Si ce qui m'intéresse, c'est saisir cet être dans sa manière d'exister, singulière, puisque dans cette manière singulière, il existe en acte. Il est parfaitement lui-même. Je me pose la question, puis-je connaître cet être en ce qu'il est être, et non pas en ce qu'il est selon tel ou tel modèle. saisir l'être en tant qu'être, en lui-même. C'est vouloir découvrir ce qu'il est profondément en lui. Et je me pose alors la question, ce qu'il est du point de vue formel, du point de vue de sa détermination, ce qu'il est dans sa réalité matérielle, ce qu'il est dans sa réalité de finalité, il devient. C'est un vivant. Ce second type d'abstraction se fait toujours par rapport à la réalité qui existe et se fait d'une manière toute différente. C'est beaucoup plus la séparation, la distinction entre les différents modes, ces différentes manières dont l'être se donne à moi, dont l'être reste pour moi quelque chose de premier, que de saisir tout simplement sa signification courante, que tout le monde peut saisir. Je vais essayer de saisir dans la réalité ce que représente cette réalité, ce qu'elle est en elle-même, dans son intelligibilité la plus profonde. Alors, je suis là en présence d'une abstraction formelle. Je mets un mot d'une abstraction qui ne quitte jamais l'être, ce qui est. Et je vois qu'en effet, mon intelligence peut progresser par la recherche de l'universel, mais c'est une progression relativement distingue la raison propre de la chose et ses modes. Et ce n'est pas une abstraction, c'est une séparation qui se fait dans un jugement qui saisit la réalité en soi, en elle-même, dans son principe. Et c'est là où tout de suite je peux distinguer les divers principes. Et je distingue dans cet rejet ce qu'il est.